place publique.
Le Conseil des États ne souhaite pas prendre de mesures pour régulariser les ventes de matériel de guerre. Il a refusé lundi deux motions en ce sens. Le Conseil des États veut laisser au peuple le choix de trancher via une initiative soutenue notamment par la conseillère aux États PDC Anne-Sedou Christ qui nous présentera sa position. La réduction de l'éclairage public risque-t-elle de poser des problèmes de sécurité routière? Les projets fleurissent un peu partout dans l'arc jurassien. Nous en débattrons avec un partisan de cette mesure et un responsable du BPA, le Bureau de prévention des accidents. Les psychologues veulent faciliter l'accès aux psychothérapies en Suisse. Ils ont déposé lundi une pétition à la chancellerie fédérale. Ils estiment que la psychothérapie doit être directement remboursée lorsqu'elle est prescrite par un médecin et donc sans passer par un psychiatre.
Jusqu'à 19h, place publique. François Comte.
Bonsoir. Le débat sur l'exportation d'armes de guerre continue à agiter la coupole fédérale. Le Conseil des États a refusé deux motions lundi. La première du conseiller national PBD Martin Landolt qui demande que le Parlement fixe les critères d'autorisation et plus le Conseil fédéral. La seconde motion émanait du PLR neuchâtelois Raphaël Comte et visait à renforcer les contrôles. Le Conseil des États préfère laisser le soin au peuple de se prononcer sur le sujet dans le cadre d'une initiative lancée en décembre dernier. Pour en parler, nous accueillons en direct, la conseillère aux États PDC jurassienne Anne-Sedou Christ, qui fait partie de la coalition contre les exportations d'armes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que vous percevez cette décision du Conseil des États? C'est une manière de fuir ses responsabilités?
C'est pas une manière de fuir ses responsabilités. C'est l'expression de la majorité qui règne à l'heure actuelle au Parlement et qui n'a pas voulu saisir l'occasion de modifier précisément la motion déposée par Martin Landolt et le groupe PBD pour transférer les critères d'autorisation en vue de l'exportation de matériel de guerre de l'ordonnance sur le matériel de guerre dans la loi sur le matériel de guerre pour qu'il y ait une meilleure légitimité démocratique que si ça dépend seulement du Conseil fédéral. Et à la base de cette initiative, qui n'est pas contre absolument l'exportation du matériel de guerre, il faut le préciser, il y a la décision du Conseil fédéral de juin 2018 d'autoriser notamment les exportations de matériel de guerre vers des pays impliqués dans un conflit armé interne, donc dans une guerre civile.
Décision sur laquelle le Conseil fédéral est revenu, mais on l'évoquera.
Le Conseil fédéral est revenu sur cette décision en raison du tollé qu'il y a eu à la fois au Parlement, d'où le dépôt de la motion du PBD, et dans le public, parce que les gens étaient absolument choqués, alors qu'on a des drames absolus, aussi bien en Syrie qu'au Yémen, sur le plan humanitaire, que le Conseil fédéral puisse envisager l'exportation de matériel de guerre dans ces pays-là.
Alors en même temps, si on reste sur cette décision du Conseil des États lundi, cette décision de la majorité dont vous ne faisiez pas partie, elle paraît pas si déraisonnable que ça, c'est-à-dire on laisse le choix au peuple de trancher.
Oui, bien sûr, on peut toujours laisser le choix au peuple de trancher. En même temps, les parlementaires sont élus par le peuple pour prendre des décisions. Le Parlement, ensuite, il y a un Conseil fédéral pour aussi prendre des décisions et pas seulement sur pression des lobbies économiques. Donc, on avait la possibilité, et ça, la coalition relative à cette initiative l'avait bien dit, que si la motion a été adoptée, et je pense que c'est la deuxième phrase de la motion qui posait problème. Même sans cette deuxième phrase, je pense qu'on aurait pu entrer en matière sur un retrait de l'initiative. Là, le Parlement, le Conseil des États ne saisit pas sa chance. Et puis, dont acte, et le débat se fera devant la population. Toujours intéressant.
Vous parlez de lobby économique. Est-ce qu'il y a aussi un poids du lobby des armes qui a pesé dans cette décision du Conseil des États?
Alors, écoutez, on a tous reçu des courriels dans ce domaine. Il y a surtout Suisse Industrie qui ne voulait pas de cette deuxième phrase, qui ne voulait pas qu'on inclue les biens à double usage, c'est-à-dire des biens civils qui peuvent être à usage militaire et qui touchent effectivement la chimie, les machines-outils, les ordinateurs, un tas de biens qui sont sujets à exportation et qui toucheraient largement toute l'industrie suisse. Et je pense que ça, c'était effectivement une phrase problématique. Et c'est pour ça que la minorité dans la commission de politique de sécurité avait accepté que cette deuxième phrase soit tracée. Mais même avec cette deuxième phrase tracée, une majorité de la commission de la politique de sécurité a décidé qu'elle ne voulait pas de cette motion. Partons du principe que le Conseil fédéral, sous la pression publique et parlementaire, est revenu en arrière et puis que donc tout allait bien et qu'on n'avait qu'à en rester là. Le problème, c'est qu'on a bien vu qu'avec un changement au Conseil fédéral, c'est-à-dire le passage de M. Burkhalter à M. Cassis, eh bien, l'ordonnance a pu changer. Enfin, la volonté de changer l'ordonnance était actée et qu'on ne veut pas que ça puisse dépendre simplement d'un changement de majorité au Conseil fédéral ou du changement ou de la sensibilité plus ou moins humanitaire ou plus ou moins économique d'un conseiller ou d'une conseillère au Conseil fédéral.
Alors, si on parle de cette initiative sur laquelle le peuple devra se prononcer, cette initiative donc demande d'interdire dans la Constitution la vente d'armes aux pays en conflit interne ou international, ainsi que l'interdiction de vendre du matériel de guerre aux pays qui violent gravement et systématiquement les droits humains. Est-ce que cette initiative, finalement, elle n'est pas tout de même trop, selon certains, restrictive pour l'économie?
Non, moi, je pense pas. Je pense que il y a aucune raison que la Suisse, qui est reconnue dans le monde pour sa tradition humanitaire, qui est reconnue pour la qualité de ses bons offices, exporte des armes dans des pays qui violent gravement et systématiquement les droits humains. Quand on dit gravement et systématiquement les droits humains, il faut voir les situations dans lesquelles les gens se trouvent. Et donc, c'est juste un retour à la situation avant 2014. C'est un retour aux promesses que le Conseil fédéral avait faites après le dépôt par le groupement pour une Suisse sans armée, dont je ne suis pas membre, je tiens à le préciser, et j'ai toujours soutenu l'armée, et je pense qu'il en faut une. Mais en 2008, le Conseil fédéral avait fait des promesses, et les promesses étaient justement ce qu'on demande à nouveau dans cette initiative populaire. Après, on a assoupli en 2014, une première fois, l'ordonnance en disant que depuis le 1er novembre 2014, il suffit de tenir compte notamment du respect des droits de l'homme. Ça donne une large marge d'interprétation. Et puis ensuite, on a dit que l'interdiction d'exporter du matériel de guerre vers des pays impliqués dans un conflit n'était applicable que dans les cas où le conflit se déroule directement dans le pays. Alors, importateur, justement... et donc à partir de là, on a pu exporter de nouveau des armes vers l'Arabie Saoudite et on voit l'implication de l'Arabie Saoudite dans le massacre qui se passe au Yémen où on vit une situation la plus grave qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde en matière de massacre des populations et de crise humanitaire.
Alors justement, la Suisse déjà ne fait pas non plus n'importe quoi, elle surveille tout de même. J'ai vu que l'an dernier, 15 demandes d'exportation avaient été refusées sur 39. C'est pas suffisant aujourd'hui pour vous ?
Non, c'est pas suffisant. Il y a un audit du contrôle du transfert de matériel de guerre qui a été fait par le contrôle des finances et dont les conclusions sont sorties l'année passée. Cet audit a quand même bien montré qu'il y avait des possibilités de contourner les textes légaux. Et par exemple, le Conseil des finances relève qu'à l'Office central chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre au sein du service de renseignement de la Confédération, par exemple, seul un collaborateur travaille à temps plein. Donc je veux dire, ensuite il y a différentes, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails, il y a différents exemples qui montrent qu'on peut contourner les critères qui ont été imposés et que les contrôles sur place peuvent aussi donner lieu à des abus et à des détournements. Donc je pense qu'on doit se donner les moyens de faire mieux. On fait déjà des choses, je ne nie pas. Le Conseil fédéral nous a expliqué l'autre jour qu'il avait tenu compte des recommandations du contrôle des finances, mais on aimerait que ce soit plus strictement contrôlé. Ceci dans l'intérêt de la réputation de la Suisse, de la réputation de notre tradition humanitaire, et aussi, je pense, au final, dans l'intérêt de l'entreprise d'armement.
Et c'est donc au peuple qui reviendra le dernier mot. Anne-Célou Christ, conseillère aux États PDC du canton du Jura, merci d'avoir été en direct dans Place Publique.
Merci pour votre invitation.
Place Publique.
La suppression de l'éclairage public est-elle compatible avec la sécurité routière? La question se pose alors que de nombreux projets se développent dans l'arc jurassien. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, la commune de Val-de-Rue a décidé d'éteindre l'éclairage public de minuit à 4h45 du matin. Mais les passages pour piétons vont rester éclairés. Dans le Jura bernois, plusieurs communes ont fait de même ou sont en passe de le faire. Dans le Jura, le canton souhaite réduire, voire supprimer l'éclairage public en dehors des localités. Objectif, réduire les coûts et les nuisances, ainsi que favoriser la biodiversité. Alors, quid dès lors de la sécurité routière, notamment celle des piétons? Deux invités vont en débattre. Il s'agit de Laurent Debrosse, secrétaire général de l'association Lampère et député des Verts au Grand Conseil neuchâtelois, et de Michael Thille, conseiller technique de la circulation au BPA, le bureau de prévention des accidents, également enseignant à l'EPFL. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Michael Thille, tout d'abord, est-ce que la suppression de l'éclairage public pose vraiment un problème de sécurité routière?
Oui, bonsoir. En effet, le BPA n'est pas favorable à cette suppression de l'éclairage public pour cette raison de sécurité routière. Différentes analyses ont été faites dans de nombreux pays et montrent clairement une corrélation entre la suppression de l'éclairage et une augmentation soit du nombre d'accidents, soit surtout du nombre de victimes. Avec, comme vous l'avez exprimé, les piétons qui vraiment, eux, subissent beaucoup plus d'accidents. On a à peu près une relation d'une augmentation d'environ 30% des accidents sur les infrastructures qui ne sont pas du tout éclairées la nuit.
Laurent Debreu, vous ne partagez pas cet avis qui paraît pourtant logique, moins de lumière, plus de danger?
Oui, le lien entre la sécurité et l'éclairage public depuis longtemps a été étudié. On a effectivement des analyses, des tests qui ont été faits, des études qui ont été faites, principalement en Angleterre, aux États-Unis. Le problème, c'est qu'elles ont été faites au siècle passé.
Qui n'est pas si lointain, le siècle passé.
C'est pas si lointain que ça, mais elles ont été toutes financées par des éclairagistes et des fabricants d'éclairage. Et finalement, elles tournent un petit peu en rond avec toujours un petit peu les mêmes résultats qui sont aujourd'hui très très critiqué, et j'en veux pour preuve la position dernièrement de l'association française pour la protection de l'environnement nocturne qui démolit complètement toutes ces études.
Michael Thille, un mot, une réaction sur ce qui vient d'être dit par Laurent Debreu, des études qui datent un peu et puis qui sont orientées?
Vous permettrez de ne pas partager cet avis parce que les études qui ont été menées déjà par des organismes similaires aux nôtres, donc qui n'ont pas du tout d'intérêt, notamment dans l'éclairage. Les dernières valeurs que l'on a sont de 2010, si je crois, c'est encore au XXIe siècle, donc elles sont un peu plus récentes. Et ce qui est intéressant, il a été cité donc le cas de l'Office d'environnement français. Et l'Office fédéral de l'environnement suisse a dicté il y a maintenant 4 ans une directive sur cet éclairage et cite notamment que l'intérêt que de pour la sécurité, il y a une mise en balance, disons, avec d'autres points, on en parlera sûrement par après, mais rappelle que c'est un élément important pour la sécurité que d'avoir de l'éclairage.
Alors justement, Laurent Debreu, la mise en sécurité de certains points, on a bien compris que pour les collectivités public, il y a l'idée de vouloir faire des économies, mais aussi de favoriser l'environnement. Est-ce que la sécurité ne doit pas primer sur ces deux aspects-là, l'aspect économique et puis l'aspect environnemental?
Alors effectivement, on a actuellement un très très grave problème environnemental avec la disparition des espèces qui est vraiment très alarmante, puisqu'on parle de plus de 85% des insectes qui auraient disparu ces dernières années. La cause première, c'est clair que c'est l'agriculture, mais la deuxième cause maintenant, on sait que c'est l'éclairage public et la pollution d'une manière plus générale. Aujourd'hui, on a une loi sur la protection de l'environnement qui demande de faire une une poésie des intérêts entre la sécurité et les besoins de l'environnement. Et aujourd'hui, cette poésie d'intérêt, elle n'est clairement pas faite. D'autre part, je relève qu'on a maintenant, en France par exemple, plus de 12 000 villes qui éteignent complètement leur éclairage public et qui ont démontré que finalement le lien entre sécurité et éclairage n'était jamais montré. Et je donne par exemple un exemple à Dunkerque où ils ont supprimé l'éclairage pendant, sur une cinquantaine de kilomètres et ils ont observé que les accidents avaient diminué de 4 fois. Ils n'ont jamais remis en marche leur éclairage public. Pour eux, le lien était très, très clair.
Michael Thi, ces exemples français, est-ce qu'ils ne vous font pas tout de même un peu réfléchir?
Oui, mais on a, comme je vous l'ai dit, fait des analyses avec d'autres pays aussi. On n'a pas pris que la France. On a aussi étudié en Suisse et on n'observe pas ce qui est relevé. Donc on a quand même un lien important au niveau de la sécurité avec un éclairage. Et surtout, ce qui nous intéresse plus, c'est les usagers les plus fragiles, hein, donc que sont les piétons, où là, on a vraiment une diminution avec l'éclairage, à peu près 2/3 des piétons tués. Donc là, c'est quand même un point important. Et quelque chose qu'on rappelle aussi assez peu, c'est finalement, là on parle des passages piétons, l'interaction entre les piétons et les automobilistes, qui est un point délicat. Mais il y a aussi pour le cheminement des piétons, le fait que ce sont des gens qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas forcément un nombre de poches. Eux, ils peuvent être en insécurité, pas forcément avec la mortalité, mais un cheminement piéton qui n'est pas éclairé est un cheminement qui est difficilement utilisable et qui sera peut-être peu utilisé. Et donc, finalement, qui n'ira pas dans le sens que on veut favoriser la mobilité douce.
Donc, pour vous, on vous écoutera tout à l'heure, monsieur De Brom. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, garder l'éclairage sur les passages piétons, c'est pas suffisant. Vous souhaitez que le cheminement des piétons soit toujours éclairé. Vous souhaitiez réagir, Laurent De Brom?
Oui, le problème, c'est que les chiffres que M. Thin nous donne maintenant, finalement, c'est juste impossible de faire l'évaluation parce que tout l'éclairage public est omniprésent. Donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de faire, en Suisse en tout cas, des analyses qui sont sérieuses. Et moi, j'aimerais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous avez une fois mesuré le faux sentiment de sécurité que procure un éclairage public sur les piétons, sur les cyclistes et même sur les automobilistes? En effet, le fait d'être éclairé peut provoquer des situations de mise en danger des piétons parce qu'ils se sentent soi-disant en sécurité, alors qu'on le sait, pour être automobiliste, je pense que vous le savez aussi, j'imagine, qu'on ne voit pas toujours aussi bien qu'on croit quand c'est éclairé. Donc le fait d'avoir un éclairage peut provoquer des attitudes dangereuses de la part du piéton. Et aussi, on a observé que la vitesse des automobilistes est plus élevée dans les rues qui sont éclairées que dans les rues qui sont éteintes. Donc là aussi, on voit que les automobilistes savent se protéger finalement de cas exceptionnels qui pourraient arriver.
Michael Thi, alors justement, ça c'est un petit peu comme pour les obstacles qu'on peut mettre sur la route. Si un automobiliste a un obstacle, un dodane ou autre chose, il va rouler moins vite. Alors si on enlève la lumière, l'éclairage, il sera plus prudent. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Laurent Debeau sur ce faux sentiment, comme il l'appelle, de sécurité?
Alors disons, ça c'est, je trouve, un argument très spécieux. Autant je peux comprendre qu'on veut diminuer pour des raisons de, comme il était évoqué avant, de biodiversité, les effets sur les insectes, par exemple, ou sur la pollution lumineuse. Autant avec ce genre d'argument, où finalement le fait d'amener un meilleur éclairage, donc d'améliorer le confort et la sécurité du cheminement piéton, on pourrait, si on poursuit dans cette dans cet argumentaire, enlever tous les trottoirs, enlever toutes les bandes cyclables, toutes les pistes cyclables, parce que ce sont tous des éléments qui vont en effet sécuriser. Et cette observation, on l'a pas du tout observée, nous, dans nos études. Le fait que l'on améliore, notamment par l'éclairage, qu'on améliore le cheminement des piétons, la sécurité des piétons, en leur mettant des meilleurs trottoirs, en mettant des bons passages piétons, clairement réalisé, avec une bonne visibilité, n'induit pas du tout un sentiment que le piéton commence à prendre des dangers parce qu'il voit bien ou parce qu'il est sur quelque chose de sécurisé. Donc pour moi, c'est vraiment, enfin pour le BPA, c'est vraiment un faux argument.
On va quand même essayer, peut-être pas de vous mettre d'accord, oui, mais trouver un terrain d'entente. À la fois, oui, Laurent Desbreux et Michael Thi. Laurent Desbreux, tout d'abord, si on coupe l'éclairage dans les localités entre minuit et 5 heures du matin, par exemple, et qu'on garde les passages pour piétons éclairés, est-ce que c'est, à votre sens, suffisant ?
Non, c'est clairement pas suffisant. Déjà, pour rappeler, j'aimerais rappeler déjà que l'éclairage de soirée, on l'a jamais remis en question. C'est un éclairage de confort et de sécurité, pourquoi pas. Quand il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de piétons, la sécurité, là, elle peut être garantie, ça, j'en conviens. Là, on parle de l'éclairage de nuit, disons à partir de minuit, où il n'y a quasiment plus de voitures et il n'y a quasiment plus de piétons. Donc la probabilité qu'il y ait l'un et l'autre en même temps sur un passage est déjà extrêmement faible. Et la probabilité, en plus, que le piéton se donne la peine de faire éventuellement un détour pour prendre le passage, pour traverser la rue, est encore plus faible. Donc là, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le BPA s'est donné la peine d'aller sur place dans les endroits où il y a eu des accidents et puis avoir une vision un petit peu différente de l'éclairage et de se dire, finalement, est-ce que l'accident aurait eu lieu si l'éclairage n'avait pas été là ?
Alors, j'ai pas réussi à vous mettre d'accord. Manifestement, je vais vous laisser répondre, Michael Thi, à cette interpellation de Laurent Desbreux.
C'est clair qu'on n'est pas appelé à tous les accidents et on rappelle aussi que c'est pas le seul élément qui va amener de la sécurité ou au contraire de l'insécurité, mais c'est quand même un élément central. Ce qu'il y a aussi, pour qu'on soit clair, il y a quand même, on est tout à fait conscient qu'il y a des endroits où il y a un éclairage inutile quand il y a vraiment personne ou à des moments on pourrait le réduire. On est plus pour la réduction. On a différentes valeurs selon les normes relatives à l'éclairage. Et d'avoir une réduction à partir de minuit, enfin on peut toujours discuter de l'heure précise, jusqu'à peu près à 4-5 heures du matin. Là, c'est quelque chose que nous on préconise plutôt une réduction, un niveau à peu près de 30 à 40% de réduction de la production de lumière. On peut le faire à distance sans difficulté maintenant. Aussi, un éclairage, on est bien conscient et on l'a constaté qu'il y a des fois des éclairages puissants mais qui n'éclairent pas où il faut. Donc aussi bien orienter l'éclairage, on peut aussi changer, mettre des LED par exemple qui éclairent beaucoup mieux et qui consomme aussi moins d'énergie. Et on se base là aussi notamment sur des études allemandes qui ont été faites, notamment à Berlin, où ils se sont posés la question, est-ce qu'il faut supprimer justement de nuit ? Et là, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait maintenir un niveau inférieur, concentré sur les passages piétons, mais en tout cas pas d'avoir un niveau nul dans certains secteurs, et puis plus que de l'éclairage dans les passages pour piétons. Ah. Il faut savoir aussi que si on éclaire que le passage piéton, on a aussi une attention qui n'est pas la même, et on a pour l'automobiliste qui circule, le fait que tout d'un coup il passe d'une zone très sombre à une zone très éclairée, ce qui fait qu'une fois qu'il a passé cette zone, l'œil a de la peine à s'habituer.
Un tout dernier mot avec vous, Laurent Desbreux, oui, parce qu'après on va devoir passer au thème suivant. Les LED ou l'éclairage intelligent, ça non plus, ça ne vous suffit pas.
C'est-à-dire qu'il faut toujours se souvenir que les communes n'ont aucune obligation d'éclairer, d'une part. D'autre part, que la loi sur la circulation routière exige, dans son article 32, que les automobilistes adaptent leur vitesse aux circonstances de la route, y compris de la lumière, et qu'en aucun cas, un automobiliste, ça n'est jamais arrivé, qu'un automobiliste soit, ou qu'une commune soit attaquée parce qu'elle avait mal éclairé un endroit, que ce soit un passage pour piétons ou une rue. Donc c'est toujours l'automobiliste qui est responsable, ça c'est la première chose. Ensuite, j'aimerais...
Tu peux me permettre d'intervenir
Très rapidement.
Oui. Oui, il y a quand même l'article 6A, si on parle de la loi sur la circulation routière, qui est plus connu sous le nom de la Sicura, qui oblige aussi quand même les communes ou les cantons propriétaires de routes à sécuriser leurs infrastructures. Et puis là, on se focalise sur les automobilistes, mais l'éclairage, comme je l'ai dit auparavant, sert aussi aux piétons, même en absence d'automobilistes.
Oui, mais vous savez que les nouvelles normes que la VSS vient d'édicter n'ont jamais été validées par le Conseil fédéral. Il ne les a pas reconnue, parce que pour qu'une norme soit obligatoire, elle doit être validée par une loi, ce qui n'est pas le cas pour les normes VSS.
Alors, je suis sûr vous mettre d'accord sur un point, c'est que pour tous les automobilistes et les piétons qui nous écoutent, une règle s'impose, c'est de toute façon être prudent hein, sur la route ou sur ou au bord de la route. Voilà.
Absolument.
Michael Thie, Laurent Desbrault, merci d'avoir participé à Place Publique.
Merci beaucoup et belle nuit.
Bonne soirée.
Merci.
Place Publique.
L'accès à la psychothérapie doit être facilité en Suisse. C'est l'avis de la Fédération Suisse des Psychologues qui a déposé lundi une pétition munie de 94 000 signatures à la Chancellerie fédérale. Les psychologues ne veulent plus dépendre des psychiatres pour que leur traitement soit remboursé par l'assurance maladie obligatoire. Pour le moment, le remboursement est assuré uniquement si un psychiatre prescrit une consultation chez un psychologue et sous sa surveillance. La pétition demande que le traitement soit directement pris en charge par la LAMAL sur demande d'un médecin généraliste, par exemple. Et nous recevons en direct le coprésident de la Fédération Suisse des Psychologues, Stéphane Wenger. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, un psychiatre, c'est un médecin et pas un psychologue. Lui n'est pas un médecin. Est-ce que les psychologues pourraient garantir une prise en charge adéquate des patients si le système était changé dans le sens que vous souhaitez ?
Oui, bien entendu. Donc, il faut savoir que depuis 2013, on a une nouvelle loi sur la psychologie et puis on a révisé totalement les standards de la formation des psychologues qui font de la psychothérapie. On est d'ailleurs d'accord avec les psychiatres pour considérer qu'il y a une forme d'équivalence entre la formation des psychologues qui se spécialisent en psychothérapie et la formation des psychiatres. Donc, on est assez d'accord pour dire qu'on a la même qualité de formation et qu'ensuite, on délivre la même prestation quand on fait une psychothérapie, qu'on soit un médecin ou un psychologue.
Mais vous, les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments, par exemple.
Alors voilà, on garde quand même quelques spécificités. Donc les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments. Par contre, les psychologues peuvent, par exemple, faire passer un certain nombre de tests pour lesquels ils sont formés, ce qui n'est pas le cas des psychiatres.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un risque que les psychologues se retrouvent face à des patients, à des cas quand même assez lourds, qui ne pourraient pas être traités de manière suffisante en cas de changement du système?
Oui, j'entends bien. Alors non, c'est un risque franchement qui n'existe pas du tout parce qu'il faut voir que c'est en fait déjà la réalité d'aujourd'hui. On a une réalité dans laquelle on a à peu près 2500 psychiatres en Suisse qui travaillent dans l'ambulatoire et à peu près 5000, un peu plus, psychologues qui prennent déjà en charge, je dirais, la totalité des types de troubles que les patients peuvent rencontrer. En plus, vu qu'on se forme souvent dans les mêmes instituts, les mêmes hôpitaux, les mêmes centres, il y a des liens très forts qui se créent entre les psychologues et les psychiatres et souvent ensuite ils s'installent ensemble ou ils s'organisent en réseau, ce qui fait par exemple que si un psychologue a besoin d'un collègue psychiatre pour prescrire un médicament à son patient, il n'y a absolument aucune difficulté de l'organiser.
Alors, un des arguments que vous mettez en avant pour demander ce changement de système, c'est la réduction du temps d'attente, des temps d'attente plutôt pour avoir accès à un traitement psychothérapique. La situation, elle est grave, alarmante de ce point de vue-là en Suisse?
Oui, effectivement. Alors là, je reprends non pas les mots de la Fédération Suisse des Psychologues, mais ceux de l'Office fédéral de la santé publique lui-même, qui a commandé deux études en 2016 et 2017. Et puis, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a une grave pénurie d'accès aux soins psy dans les campagnes partout en Suisse et pour les enfants et adolescents partout en Suisse. Donc en gros, il y a à peu près que les adultes dans les villes qui trouvent une place assez rapidement. Pour les autres, on a des délais de plusieurs mois d'attente, ce qui est souvent assez dramatique pour les personnes dans un état de fragilité, évidemment. Et en plus, ça engendre des coûts indirects qui pourraient être économisés et puis qui se comptent à la fin en milliards. Donc si on accumule tous les coûts que représentent les arrêts de travail, les maladies qui deviennent chroniques, les personnes doivent être hospitalisées, les personnes consomment des médicaments, ce qui aurait pu être évité, les personnes finissent par avoir une rente à l'assurance invalidité, tous ces coûts-là, c'est entre 10 et 20 milliards par année pour la Confédération.
Donc aujourd'hui, ça signifie que la Suisse manque de psychiatres. Alors est-ce qu'il ne faut pas en former davantage et puis peut-être faire venir des psychiatres de l'extérieur, un pays voisin, la France par exemple?
Oui, bien sûr. Donc toutes ces solutions Elles sont évidemment étudiées, mais elles sont même pratiquées depuis des années. Alors nos amis psychiatres pourraient en parler mieux que moi, mais ils ont vraiment un bassin d'étudiants qui choisissent de se spécialiser en psychiatrie qui diminue. Et puis en plus, la moyenne d'âge des psychiatres en Suisse est assez haute, ce qui fait qu'on a beaucoup de cabinets qui ne sont pas repris par des jeunes. Alors on pourrait substituer à ça un recrutement à l'étranger, et ça se fait évidemment déjà depuis au moins 20 ans, depuis que je connais le système. On a d'abord recruté en France, puis ensuite dans les autres pays limitrophes, puis en Europe de l'Est, du Sud. Mais aujourd'hui, on est vraiment face à une difficulté qu'on peut pas résorber avec ces solutions-là.
Mais est-ce que le changement que vous réclamez, finalement, de ne plus dépendre d'un psychiatre pour que le patient soit remboursé directement par la LAMAL, est-ce que ça risque pas de provoquer une explosion des coûts de la santé ?
Non, pas du tout. Alors, il faut bien s'imaginer qu'on ne demande pas la lune, hein, on ne demande pas à pouvoir s'installer dans nos cabinets où on veut et à recevoir qui on veut. On demande juste à pouvoir respecter ce qui est dans cette loi sur la psychologie et qui est la réalité, c'est-à-dire que les psychologues qui font de la psychothérapie, c'est écrit dans la loi, peuvent le faire de manière autonome, sont aptes à poser des diagnostics, à dispenser des traitements. Après, comme vous l'avez dit, ça implique pas un changement de système total. Nous, on veut juste ne plus être sous la surveillance du psychiatre et avoir nos cabinets à nous. Mais pour qu'un patient puisse faire une psychothérapie, il devrait toujours aller voir son généraliste ou le pédiatre ou un autre médecin qui prescrirait, comme qui donnerait un bon pour aller faire une psychothérapie de tant de séances chez un psychologue.
Mais
donc
ça,
en fait, vous avez beaucoup de filtres.
Beaucoup de filtres pour arriver jusqu'à vous, c'est ça.
C'est ça qui pourrait, en plus, au cas où les coûts évoluent, les limiter. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de médecins qui font un certain nombre de bons pour un certain nombre de séances. Tous ces facteurs-là, le système qu'on souhaite, nous, on prévoit qu'il les mesure. Et au cas où les coûts augmentent, on souhaite évidemment que ça puisse être limité. Il ne s'agit pas de faire exploser les primes d'assurance maladie.
Alors, la question des coûts, est-ce que c'est ça, tout de même, encore aujourd'hui, qui bloque du côté de l'Office fédéral de la santé publique pour que vous puissiez accéder à cette forme de reconnaissance ?
Alors, je pense que c'est effectivement le grand obstacle ou un facteur majeur. Par contre, je dirais que ce n'est pas forcément celui de l'Office fédéral de la santé publique, qui a donc commandé un certain nombre d'études. Alain Berset, qui dirige le département de l'Intérieur, a répondu aussi à certaines interpellations qu'on a déposées au Parlement, qui montrent en fait que l'OFSP fait son travail. Hein. Le département de M. Berset fait son travail. Maintenant, c'est l'étape Conseil fédéral qui semble être sensible. Et là, c'est pas le problème de l'OFSP, mais probablement plus de certains partis qui sont très très à cheval sur le moindre centime dépensé en faveur de la santé.
Alors, c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première initiative que vous lancez, initiative au sens large du terme, hein, que cette pétition qui a été remise. Est-ce que tout de même vous sentez que ça bouge du côté de la Berne fédérale ? Autrement dit, est-ce que vous envisagez d'autres actions qu'une pétition ? Peut-être le lancement d'une initiative populaire, c'est du domaine du possible ?
C'est du domaine du possible. Donc actuellement, on a encore d'autres actions en cours qui font un peu moins de bruit, mais des actions juridiques ou du lobbying politique. Et je vous le disais, on sent dans les messages de réponse au Parlement qu'il y aura des étapes concrètes là en 2019. Et puis, dans les dernières réponses, le Conseil fédéral dit qu'il analyse des propositions concrètes pour abandonner le modèle actuel et que ça devrait aboutir à un projet de consultation. Donc si on lit entre les lignes, ça veut dire qu'on vise le Conseil fédéral pour qu'on puisse aller de l'avant et que c'est plutôt, comme je le disais, cette étape-là qui pourrait être délicate.
Affaire à suivre donc, Stéphane Wenger, co-président de la Fédération suisse des psychologues. Merci d'avoir été en direct dans Place publique.